La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce quatrième et dernier épisode d'une série consacrée depuis lundi à l'œuvre et à la vie, l'une comme l'autre bien romanesque, de l'écrivaine George Sand. Sand, une femme dont le surnom de Bonne Dame de Nohant qu'elle traîne encore derrière elle rend mal compte évidemment de la vie mouvementée, passionnée et audacieuse qu'elle a eue, une vie que Martine Reed nous a racontée, c'était dans l'émission de lundi dernier. Mardi, nous avons parlé avec Béatrice Didier des engagements de George Sand, engagement du côté de la République d'abord et du côté socialiste ensuite. Elle qui s'était donnée comme objectif dans ses romans de changer l'image du petit peuple de France, celui des campagnes notamment. Les campagnes, nous en parlions hier justement avec Vincent Robert qui nous a expliqué pourquoi les sorcières sont si importantes dans les livres de George Sand et aussi comment elle était devenue une véritable anthropologue de la vie paysanne dont les observations précises forment la matière de beaucoup de ses romans. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est d'une George Sand en lien avec les autres dont nous allons parler. Une écrivaine qui envoyait des lettres, beaucoup de lettres, et qui en recevait tout autant. Nous le faisons avec Thierry Baudin, spécialiste des littératures autographes, et en particulier de celles du 19e siècle. Il a notamment étudié, édité en folio la correspondance ramassée de l'écrivaine Berrichonne, des lettres qui nous racontent au jour le jour la vie et les préoccupations de George Sand. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
La correspondance vous apporte beaucoup plus que ne peut le faire une mémoire, des mémoires, des choses écrites après coup. Tandis que là, même si à un certain moment, elle travestit un peu la vérité à l'égard d'un correspondant, ça se répare, ça se corrige par une autre lettre. De sorte qu'on a véritablement, si l'on fait un peu de psychologie, n'est-ce pas, on a une vue générale, une vue totale de l'individu qui a écrit. Et ses angoisses, oui, elle a certainement des angoisses. Je crois qu'elle avait beaucoup de volonté tout de même, malgré ce qu'elle en a dit, mais elle avait aussi, n'est-ce pas, tout de même des craintes. Elle n'a jamais été l'écrivain qui était sûr de lui, même au début de sa vie, même au début de sa vie littéraire.
Bonjour Thierry Baudin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez reconnu cette voix.
Ben oui, j'ai très ému d'entendre Georges Lubin, qui a été un grand ami. Et c'est à lui qu'on doit le rassemblement de cette monumentale correspondance qu'il a publiée donc en 26 volumes. Et j'ai pris donc la suite en 2004 en donnant un volume de lettres retrouvées. Et je prépare, je sais pas, d'ici un an ou deux, un autre volume de nouvelles lettres retrouvées. Et ce qui fait qu'on peut estimer la correspondance de George Sand à environ 20 000 lettres. Ce qui est énorme, qui court en gros de 1820 à 1876 jusqu'à la fin de sa vie, puisque la dernière lettre est quelques jours avant sa mort. Et donc c'est une correspondance absolument extraordinaire, d'une grande richesse. Alors, effectivement, je comprends qu'on renacle un peu à se plonger dans la lecture de ces 26 volumes, mais ils en valent souvent la peine. Il y a des pages absolument admirables, donc c'est pour ça que j'avais fait une version condensée en 434 lettres, je crois, et qui donne un aperçu et qui est une porte d'entrée à poursuivre l'exploration de cet auteur.
Ça a dû être très difficile alors de choisir parmi ces 20 000 lettres les 400 qui devaient rester.
Ça a été un cauchemar. En fait, j'étais parti des deux anthologies qui étaient déjà publiées dans Folio, c'est-à-dire Baudelaire et Flaubert, et j'avais dit, ils avaient écrit tant de lettres, et ils ont eu droit à 200 lettres, et Georges Sand en a écrit 4 fois plus, donc elle a droit au moins au double. Et donc, c'est comme ça, mais le volume est effectivement un petit peu trop gros, peut-être. Mais je
On
crois
peut pas
que
le lire au lit, quoi, c'est
voilà.
ça.
Voilà. Mais il fallait quand même ça pour prendre l'épaisseur, pour prendre le ton, parce que pour Georges Sand, la correspondance est vraiment une conversation. Hein. Mmh. Et donc, selon l'interlocuteur, elle va changer de ton. Elle aura donc, ça donne une diversité. Et le même jour, elle peut écrire une lettre sur le même sujet à deux correspondants, et ce sont deux lettres totalement différentes.
Mais alors, justement, comment avez-vous procédé au choix et quelles sont les lettres qui vous touchent le plus ?
Alors, ça n'était pas tellement un choix pour les lettres qui me touchaient le plus. C'était vraiment, c'est pour ça que j'ai donné le titre « Lettres d'une vie », c'était vraiment essayer de suivre voilà, toute la vie et l'œuvre aussi, parce qu'elle est importante en dehors de la correspondance, il ne faut pas oublier que Georges Sand est quand même une romancière de premier plan. Je crois que les personnes qui ont parlé les jours précédents l'ont dit et redit. Hein. C'est quand même une très grande romancière, une écrivain de voyage. Elle a écrit des lettres du voyageur, lettres d'un voyageur qui sont absolument admirables. Un livre autobiographique et aussi toute l'histoire de ma vie. Tout cela est une œuvre très à multiples facettes. Dans les romans eux-mêmes, il y a une très grande diversité. Mais ce que je voulais, c'est effectivement montrer la femme, l'auteur, et la vie de cette femme exceptionnelle à travers l'histoire de son siècle, parce que c'est aussi un écho sonore de son siècle, hein, depuis en gros les années de la Restauration où elle est jeune mariée, mais elle s'intéresse quand même à ce qui se passe, jusqu'à la guerre de 70 et la Troisième République.
Alors, vous vous êtes plongé dans ces lettres, dans les manuscrits. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot ? Ça va être émouvant quand même de farfouiller comme ça dans les lettres qu'elle a touchées et sur lesquelles elle a écrit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de son écriture, de sa graphie ?
Alors, l'écriture de Georges Sand a évolué. Hein. Alors, elle a commencé, en fait, ce qui est très amusant, c'est que, en fait, son œuvre, enfin la vocation de Georges Sand comme écrivain, a commencé vraiment par la littérature. Elle s'ennuyait à Nohant au début de son mariage, ça commence en 1820. Elle s'ennuie à Nohant et elle écrit de longues lettres à ses amis de pension qui aiment bien le ton, la façon dont elle raconte des choses.
Qui sont déjà un petit peu exceptionnelles.
Et donc très souvent, elle va ajouter à la lettre une espèce de petit texte qu'elle a composé comme ça, et puis d'un seul coup elle va commencer à écrire des choses plus longues, et c'est comme ça qu'est née la vocation littéraire de Georges Sand. Donc c'est vraiment né de la lettre. Alors l'écriture de jeunesse, c'est une petite écriture penchée assez fine qui va s'élargir un petit peu au fil des années, toujours en gardant ce côté un peu cursif, un peu penché. Et puis, dans 1854, je crois, enfin, en tout cas dans les années 1850, au début des années 1850, d'un seul coup, elle a une crampe à la main et elle change totalement d'écriture. C'est-à-dire que d'un seul coup, elle se met à écrire d'une écriture ronde, assez grosse et très droite. Et c'est d'ailleurs assez pratique quand on a des lettres non datées, et on peut tout de suite dire, en voyant la graphie, bon ben c'est avant telle époque. Puis bon, quand même, il y a une évolution entre la petite minuscule écriture en pâte de mouche du début et puis celle qui va être des grandes années de l'Eliade, de Consuelo.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'elle voulait écrire aussi vite que sa pensée, parce qu'elle écrivait tellement, hein, on va le voir, qu'elle avait besoin que sa graphie puisse suivre la rapidité de sa pensée?
Je ne peux pas dire qu'elle ne pensait pas en écrivant, ce ne serait pas juste. Mais en fait, très souvent, je ne parle pas dans les lettres, hein, mais très souvent, quand elle se met vraiment à écrire, elle a ruminé ça pendant la journée. Quand elle se met à son bureau pour écrire, elle a pratiquement en tête ce qu'elle a jeté sur le papier.
Thank you.
Alors, il y a quelque chose de très étonnant, Thierry Baudin, eu égard à la manière dont Sand considérait le travail d'écriture des lettres, c'est qu'au fond, pour elle, c'était plus difficile d'écrire des lettres que d'écrire des romans.
Oui, alors ça, c'est très, très curieux. Mais elle le dit, hein, elle dit « la correspondance, c'est le travail ». Et que l'écriture ne lui fait pas peur, qu'elle est habituée à ça, c'est sa tâche quotidienne. Alors elle avait un très grand respect pour le travail, hein, qu'il soit manuel ou intellectuel, et donc pour elle, ça faisait partie de son devoir. Elle était sur terre pour écrire, hein. Et donc c'est son occupation, c'est son travail, c'est son gagne-pain, et elle doit le faire. Tandis que la correspondance, il faut dire que certains jours, il arrivait 20 ou 30 lettres à Nohant. Elle n'aimait pas laisser traîner les choses. Donc, elle répondait très vite.
Alors, elle répondait à tout le monde.
Oui, quasiment. Hein, quasiment. Ne serait-ce que pour y conduire, mais c'était joliment tourné et tout. Donc, en fait, ce qu'il y a de pratique, c'est qu'à partir de 1852, elle tient un carnet où elle note, en principe, parce qu'on voit bien qu'il y a des oublis de temps en temps, mais en principe, elle note toutes les lettres qu'elle envoie. Donc, à partir de cette époque-là, on peut effectivement dire, ben là, il nous manque une lettre à cette date-là. Et justement, dans ces volumes de lettres retrouvées, il y a certaines lettres que je retrouve dont on avait la trace. On savait qu'elles existaient, mais on ne les avait pas encore vues. Alors, c'est vrai, elle dit, la correspondance, c'est le travail, parce que, effectivement, il faut qu'elle pense là. Elle n'a pas eu le temps, si vous voulez, elle arrive à son bureau pour faire sa correspondance, elle se met à lire la lettre et puis il faut y répondre.
Alors que le roman, elle y pense en réalité tout le temps.
Et donc, quand elle mûrit dans sa tête et pratiquement, elle le jette, en quelque sorte, elle l'improvise. Oui. Sur le papier.
La mare au diable, c'est 4 jours, je crois.
Oui, ça va souvent très vite. Enfin, certains romans un peu plus importants, ça prend plus de temps. Bon, il ne faut pas dire non plus qu'elle ne travaillait pas vraiment, parce que une fois qu'elle avait jeté sur le papier, elle revenait, elle relisait, elle le corrigeait. On en a parfois la trace dans certains manuscrits quand ils n'ont pas été trop esquintés par les relieurs ou manipulés ensuite. Donc, on voit qu'en fait, il y a un travail de relecture. Et d'ailleurs, très souvent, quand on regarde les agendas, parce qu'on a aussi cette chance qu'à partir de 1852, où George Sand ou son compagnon Manceau tiennent un agenda très précis de tout ce qu'elle fait. Donc on voit qu'il y a l'écriture du roman, Madame écrit son roman, ou c'est George Sand qui dit, bon. Et ensuite, on voit la période de retravail qui peut durer une quinzaine de jours. Hein. Mais en fait, effectivement, le gros de l'écriture, ça se passe dans un délai relativement vite. C'est pour ça qu'il y a une page merveilleuse d'Henry James qui disait que George Sand était la grande improvisatrice de la littérature. Il y a une page absolument magnifique de lui à ce sujet, parce qu'il dit que ça naît spontanément, et c'est vrai que ça naît spontanément.
Et les lettres aussi, alors elles sont sans brouillon, elles ne sont pas raturées, parce que c'est quand même...
Oui, les lettres sont très très peu raturées.
Peut-être pas d'un grand style, mais enfin...
Ah si. Alors, il y a des lettres qui sont vraiment des pages d'anthologie, hein. Non. Vraiment, c'était auquel, soigné. Elle écrivait pas par-dessous la jambe comme ça. Hein. Elle choisit des tons différents selon les correspondants. Il y a des pages qui sont vraiment des vrais paysages. Il y a d'autres pages qui sont des... je pense notamment à certaines lettres à Michel de Bourges qui sont des vrais poèmes d'amour extraordinaires. Il y a tous les tons. Mais une fois qu'elle était rentrée avec la personne, elle lui parlait. À Nohant, elle était un peu isolée du monde. Hein. Donc, à Nohant, elle conversait avec ses amis ou avec des gens qu'elle aimait ou qu'elle respectait, avec des auteurs qu'elle estimait. Et donc là, ça devient vraiment une conversation. Mais c'est vrai que c'est un peu... D'abord, ça lui prend sur son temps d'écriture des romans. Mais en même temps, une fois qu'elle est dedans, elle le fait consciencieusement.
Alors, cette idée de conversation, c'est vrai qu'on la retrouve quand, par exemple, elle parle même de causer. Je voudrais lire une citation d'une lettre à son amant Aurélien de Sèze. « Je profite de ce que mon mari est parti pour faire une longue course avec son père, pour m'enfermer avec vous, mon bon ange, et causer sans crainte d'être dérangé. » C'est vraiment comme s'il était là dans la pièce. C'est une façon de se transporter réellement.
Ah oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment pour elle une conversation.
Et alors, est-ce que par rapport au roman, on peut considérer que les lettres, c'est une manière de faire des gammes aussi ?
Pas vraiment. Non, je crois que c'est vraiment assez différent. C'est très rare d'ailleurs que des lettres recoupent vraiment des romans. Il y a peut-être effectivement, bon, mais c'est un cas un peu à part, le roman Elle et lui, qui est inspiré par sa passion avec Musset. Ce roman est né de la relecture de leur correspondance, parce qu'elle avait récupéré, elle avait réussi à récupérer les lettres de Musset. Elle avait gardé les lettres de Musset, elle avait réussi à récupérer ses propres lettres, et donc, à la suite de la mort de Musset, elle se met à relire tout cela, et c'est à la suite de cette relecture qu'elle va écrire ce roman, et dans le roman, effectivement, on a des bribes de la correspondance qui apparaissent, mais en fait, dans la correspondance courante, ça n'est pas vraiment, il n'y a pas de gamme.
J'ai vu hier l'opéra de ce fameux Verdi, ou Merdi, qui fait fureur aujourd'hui. C'est le ressassement de toute la défroque de Rossini, moins les idées. Rien, mais du bruit. On voudra en avoir votre avis, on le discutera devant vous. Il faudra y aller, bon gré, mal gré, mais vous irez sans moi, je vous jure. Je pensais tout le temps à votre pauvre maître Viardot, dont la destinée est inévitablement, si elle veut vivre, de chanter désormais à perpétuité la musique de ces gredins-là. Où est Chopin? Où est Mozart? Où sont les prêtres du Dieu vivant? Où êtes-vous?
Spegnata, oh, io trappata, vostra la vostra, lo spegnerò.
Et vous écoutez La Compagnie des auteurs. Nous parlons de la correspondance de Georges Sand avec Thierry Baudin, qui en a réalisé une anthologie publiée en folio classique. Alors Thierry Baudin, ça c'était une lettre, hein, vous l'avez évidemment reconnue, à Delacroix, lue en l'occurrence ici par Catherine Fraud. Est-ce que vous la trouvez très sandienne, cette lettre? Parce que c'est une lettre qu'on pourrait qualifier de naturelle, elle est très naturelle. Or, le style de Sand, comme vous le qualifiez, est un style dans ses lettres naturel.
Oui, c'est effectivement très naturel. C'est ses réactions, elle réagit là. Effectivement, elle n'a pas aimé Verdi. Pour elle, la musique, c'est avant tout quelque chose de sentiment. D'ailleurs, pour elle, le sentiment dans l'art, c'est quelque chose de capital dans ses romans. C'est pour ça qu'il y a eu une grande dispute très affectueuse avec Flaubert.
On en parlera.
Là, elle a effectivement, avec Delacroix aussi, une relation privilégiée. Il y a eu d'ailleurs, il y a quelques années, une très très belle édition de la correspondance croisée de Georges Sand avec Delacroix, qui est très très attachante. Et j'en profite pour signaler qu'il y a un magnifique portrait de Georges Sand par Delacroix juste après la rupture avec Musset, au moment où il s'est coupé les cheveux, qui vient de passer en vente et qui a pu être acquis par le musée Delacroix, qui va consacrer à ce portrait un accrochage spécial à partir du mois de septembre.
Donc,
à partir
du mois de septembre, de tous les manuscrits,
précipitez-vous au musée Delacroix,
oui, qui peuvent apparaître.
Oui, oui. Et la correspondance avec Delacroix est merveilleuse aussi, parce que là, c'était vraiment deux camarades d'art, même si de temps en temps, on sent dans le journal que de temps en temps, Georges Sand dégaçait un peu Delacroix, mais il s'aimait vraiment beaucoup.
Donc c'était aussi une chroniqueuse de l'actualité, culturelle ici en l'occurrence?
Oui, alors chroniqueuse dans la mesure où elle était à Paris, parce qu'elle a quand même passé énormément de temps à Nohant, ce qui fait que justement, alors on a des réactions, à l'actualité politique bien évidemment, ça elle le suivait très attentivement, elle y a même participé au début de la révolution de 48. Mais également l'actualité littéraire. Mais dès qu'elle est à Paris, elle court au théâtre, elle court à l'opéra. Bon, sa grande amie, c'est la chanteuse Pauline Viardot, qui la sœur de la Malibran. Et pour elle, le dieu en musique, c'est Mozart. Hein. C'est pour ça qu'elle a des réticences à l'égard de Verdi. Hein. Mais la correspondance avec Pauline Viardot est aussi une très, très belle correspondance. Et j'espère, dans 2-3 ans, mais c'est un énorme travail, pouvoir publier la totalité de l'échange entre Georges Sand et Pauline Viardot, parce que les lettres de Pauline sont très belles, elles aussi. Et là, il y a vraiment une très, très belle correspondance qui, à mon avis, est presque aussi intéressante que Georges Sand-Flaubert.
Mais alors, quand on lit l'ensemble de la correspondance comme vous l'avez fait, pas seulement le digest qui est déjà très important et que vous nous proposez, ce qui ressort, c'est quoi ? C'est la vie quotidienne ? C'est justement la chronique de l'actualité ?
C'est avant tout la vie d'une femme. Hein, pour c'est une chronique. C'est plein de renseignements sur la vie quotidienne à Nohant, sur la vie à Paris. Et sur
qu'est-ce
les
qu'on
voyages.
Peut y apprendre ? Qu'est-ce que vous y avez appris ? Parce que finalement ces lettres là, et c'était aussi l'objet de la première archive qu'on a entendue, celle de votre maître.
Oui, oui.
C'est de comprendre réellement qui elle était.
Oui.
Et qu'est-ce que vous avez compris au fur et à mesure des années ? Qu'est-ce que ça a changé de votre vision justement en lisant sa vie quotidienne ?
C'est simple. Ça m'a surtout amené à l'admirer de plus en plus. Hein, et je crois que c'était une femme vraiment exceptionnelle, un écrivain d'abord de premier plan, qui un jour ou l'autre, on va remettre à sa juste place, et surtout la vie d'une femme extraordinaire, et une leçon de vie sensationnelle tout au long de sa vie, malgré les, au moment des pires épreuves, parce qu'elle en a eu, elle a eu des chagrins terribles, que ce soit des chagrins, des peines terribles d'amour, des chagrins quand ses petits-enfants meurent, la dispute, la rupture avec sa fille a été un véritable drame. Bon, il y a eu une quantité de choses. La désillusion de 1848 a été pour elle un déchirement total.
Et malgré son plus grand bonheur.
Son plus grand bonheur, alors c'est un bonheur, je dirais, alors il y a eu les grandes passions, la passion avec Musset, avec de temps en temps des moments d'exaltation extraordinaires, mais je crois que son plus grand bonheur, c'est les 10 ans de vie commune avec Manceau, où là vraiment elle a trouvé une façon de vivre, un compagnon qui la comprenait entièrement, qui était avec elle, qui partageait tout avec elle. D'ailleurs, elle s'est pas vraiment brouillée, mais elle a quitté Nohant volontairement parce que son compagnon y était méprisé et détesté. Et il y a une lettre admirable, enfin c'est pas une lettre d'ailleurs, c'est dans l'agenda où elle dit « Oui, mon vieux compagnon, viens, nous quittons, partons ensemble, j'abandonne tout, je pars avec toi ». Et là vraiment, elle a vécu 10 ans merveilleux. Alors après, il y a eu évidemment le drame de la mort de Manceau, qui a été malade, qu'elle a veillé, mais elle est restée très très fidèle à ça. Et pour elle, les morts n'étaient jamais morts.
Mais les lettres qu'elle envoyait à Manceau n'étaient peut-être pas aussi scandaleuses que celles qu'elle envoyait à Musset.
Je suis très émue de vous dire que j'ai bien compris l'autre soir que vous aviez toujours une envie folle de me faire danser. Je garde le souvenir de votre baiser. Et je voudrais bien que ce soit là une preuve que je puisse être aimée par vous. Je suis prête à vous montrer mon affection toute désintéressée et sans calcul. Et si vous voulez me voir aussi vous dévoiler sans artifice mon âme, toute nue, venez me faire une visite. Nous causerons en amis, franchement. Je vous prouverai que je suis la femme sincère capable de vous offrir l'affection la plus profonde comme la plus étroite amitié en un mot, la meilleure preuve que vous puissiez rêver puisque votre âme est libre. Pensez que la solitude où j'habite est bien longue, bien dure et souvent difficile. Ainsi, en y songeant, j'ai l'âme grosse. Accourez donc vite et venez me la faire oublier par l'amour où je veux me mettre.
Cette même lettre, lu une ligne sur deux, donne ceci. Je suis très ému de vous dire que j'ai toujours une envie folle de me faire baiser, et je voudrais bien que ce soit par vous. Je suis prête à vous montrer mon cul, et si vous voulez me voir aussi toute nue, venez me faire une visite. Je vous prouverai que je suis la femme la plus profonde comme la plus étroite que vous puissiez rêver, puisque votre bite est bien longue, bien dure, et souvent grosse. Accourez donc vite et venez me la mettre.
Alors j'étais très étonné, Thierry Bodin, en vous lisant, car vous dites qu'il n'y a pas d'écrit érotique dans la correspondance de George Sand. Alors qu'est-ce que c'est que cette lettre?
Non, c'est un faux manifeste. Je regrette beaucoup qu'on l'ait lu ici parce qu'il court sur Internet et tout le monde apporte des... Mais c'est un faux grossier. Et jamais...
Donc il n'y a pas eu de lettre qu'on pouvait lire, une ligne sur deux.
Non, jamais. D'abord, George Sand était quelqu'un de très pudique, contrairement à ce que peuvent croire certaines personnes. Même s'il a eu un certain nombre d'amants, mais comme le disait Balzac, son mâle était rare. Et donc, avant qu'elle trouve les gens à sa convenance, elle a effectivement papillonné, mais jamais elle n'aurait écrit quelque chose comme ça. Elle était très, très prude, finalement. Elle détestait pas la grosse plaisanterie, notamment avec Flaubert. Il y a des lettres désopilantes où elle fait des... Elle invente un faux personnage qui écrit des choses presque obscènes, mais jamais vraiment pornographiques.
Mais elle peut tout de même parler de la difficulté qu'elle ressent à la chasteté forcée que lui impose l'absence de Michel de Bourges.
Ça, elle le dit. Elle le dit très nettement, mais bon, elle ne va pas employer des mots comme ça.
La liberté de rompre et de reformer l'union conjugale, ça oui.
Oui. Mais
ce qu'elle proclame, c'est l'amour vrai, la fidélité, le mariage et la maternité.
Ah oui, oui, oui.
Ça, c'est très important.
Oui, oui. Alors, c'est très. Ça peut déranger effectivement pas mal les féministes, mais George Sand était. D'abord, elle croyait beaucoup au mariage. Il y a beaucoup de lettres à des jeunes hommes qu'elle encourage au mariage, à qui elle fait des recommandations, et elle était bien placée pour savoir que le mariage peut être une catastrophe. Et donc, elle souhaite ardemment que le mariage se passe bien. Elle avait un amour énorme pour sa belle-fille. Et puis, effectivement, pour elle, une femme n'est réellement femme que quand elle est mère.
Et quelle était justement la teneur des lettres qu'elle échangeait avec sa mère à elle? Au début de l'anthologie, il y a cette très longue et très belle lettre qu'elle lui envoie depuis les Pyrénées. Est-ce que ça vous semble... Alors, vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu d'ailleurs, puis nous dire ensuite ce que vous en pensez.
Alors, les rapports avec sa mère ont été relativement difficiles, parce qu'elle a été en fait élevée par sa grand-mère, et quand finalement elle s'est rapprochée de sa mère, la grand-mère détestait sa belle-fille, trouvait que c'était une mésalliance totale. Bon, mais elle a eu le malheur de perdre très jeune son père, Maurice, mort d'un accident de cheval. Et donc, ensuite, elle a été élevée par sa grand-mère, puis mise au couvent. Et donc, les rapports avec sa mère ont toujours été un peu difficiles. Et il semble, on le verra dans une des lettres que je vais publier dans les nouvelles lettres retrouvées, que vraisemblablement, le mariage a été arrangé financièrement par sa mère. C'est-à-dire que sa mère a probablement vendu George Sand au pauvre Casimir.
Donc elle l'a vendu deux fois. Alors elle l'a vendu une fois à la grand-mère. Et puis
non, elle ne l'a pas vendu. C'est la grand-mère qui a retiré Aurore des mains de sa mère. Alors, les rapports avec sa mère sont affectueux. Il y a des lettres où elle s'entend très bien avec elle, mais il y a toujours quelque chose d'un petit peu délicat. Et on retrouvera un peu la même chose, mais de façon beaucoup plus dramatique, avec sa fille. Alors, elle a couvé complètement son fils Maurice, qu'elle adorait, qui, à mon avis, elle a beaucoup trop gâté. Mais, par contre, les rapports avec sa fille Solange ont été très difficiles. Bon, il faut dire que Solange n'avait pas un bon caractère, était peut-être un petit peu faucheton et fourbe, et donc elle a contribué aussi énormément à la brouille avec Chopin. Elle a mis de l'huile sur le feu, elle a fait un mariage malheureux, mais dont George Sand est quand même en partie un peu responsable, et qui a très très mal tourné, et ça s'est très très mal passé.
Mais avec son fils Maurice, on a l'impression qu'ils s'entendent effectivement très très bien. Ah oui. Elle lui écrit, par exemple, lors d'un voyage en bateau entre Gênes et Marseille, elle lui raconte, pas moyen de dormir, on était retourné dans son lit comme une omelette, la mer entrait par les fenêtres, les cages à poules se jetaient sur les poissons, etc., etc. Et moi, donc George Sand, j'ai mangé pendant tout ce temps d'une manière scandaleuse. Donc il y a un rapport de complicité quand même.
Oui, il y a effectivement une grande complicité. Il faut dire que cette correspondance avec Maurice va évoluer au fil du temps. Il y a d'abord les lettres quand il est en, à l'école, en pension, c'est des lettres de conseil et autres, mais il y a vraiment une réelle complicité entre deux. Hein. Et jusqu'à la fin, c'est-à-dire que dès qu'il se quitte, elle va lui donner des nouvelles hein, régulièrement.
Alors on va continuer de parler avec vous de la correspondance de Georges Sand, Thierry Baudin, mais tout de suite voici, comme chaque jour, en compagnie des revues. En compagnie des revues avec aujourd'hui André Chabin d'Entrevue, la revue des revues. Bonjour André.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et vous nous parlez, pour commencer, du dernier numéro d'une revue qui s'appelle Hippocampe.
Hippocampe, essai de revue totale. Chaque numéro de la revue, pensé amoureusement par Guilhem Pertuis, déploie un véritable banquet avec des mets aussi goûteux que divers. Son numéro 13 ne déroge pas à la règle. Des essais, Muriel Pic sur Michaud, observant Michaud sous Mescaline, ou encore Philippe Baudouin sur Bachelard dans l'univers des voix. Un cahier de création, des poèmes de Laisse Muret, Antoine Mouton, Laura Vasquez, un récit de Francesc Serres, encadre un ensemble consacré à l'écrivain argentin Alan Pauls. Je prononce Alan Pauls, je ne sais pas, puisqu'il est argentin. Dont l'œuvre est traduite en français chez Christian Bourgois, dossier dirigé par André Gabestou.
À la française.
Dossier contre dossier, voici sous la conduite de David Collin celui dédié à l'épatante et suisse revue Furor, dirigée entre 1980 et 2000 par Daniel Willem, avec ses 30 numéros où la modernité s'écrivait sous les noms de Derrida, Heiner Müller, Jean-Luc Nancy, Novarina, Mathieu Bénézé, qui nous manque si fort depuis 3 ans déjà, ou Starobinski, bien sûr, Starobinski, auteur des 3 Fureurs. Et Hippocampe, déjà profuse, déplie d'autres rubriques, celle-ci entre autres, en forme d'enquête. Quel classement pour votre bibliothèque? Je vous laisse aller voir qui répond. Il faut encore, pour donner une idée de sa richesse, insister sur sa splendeur iconographique. Un des portfolios présentés est constitué d'œuvres de Nathalie Osseff, d'étranges tableaux photographiques dans lesquels les visages sont comme effacés, troués d'absence, présence fantomatique des êtres.
Et donc, le visage est au cœur aussi d'une autre revue dont vous voulez nous parler.
Visage, c'est le thème en effet que s'est choisi pour son 3e numéro, après Écrire petit, où il n'y avait pas Georges Sand, puis Trahir, la moitié du Fourbi, assurément l'une des jeunes revues les plus abouties. Animée par Frédéric Folioff, elle est composée par une équipe particulièrement talentueuse qui offre des textes magnifiques. Visage est écrit au singulier sur la couverture, mais se décline en des états pluriels. Visage aimé aux paupières baissées, celui d'Antinous, c'est Adrien, c'est Marguerite Yourcenar en mémorialiste, visage du père mort, visage aboli du condamné à mort, Maurice Pilorge, pardon, sous le dernier regard de Jean Genet, celui incertain de Pancho Villa dans ses ultimes photos, l'hypothétique visage du Martien aussi, celui énigmatique dans les visages du Fayoun, d'autres scrutés par Frank Smith, Sylvain Patieu, Hugues Leroy, Zoé Balthus, Anthony Poirodo, il faudrait tous les nommer. Mais pour faire l'éloge de cette revue, j'ai envie de laisser la parole à un autre, un libraire, Hugues Robert, de la librairie Charib, à Paris, dans le 12e. Voilà ce qu'il dit. Ce 3e numéro de la moitié du Fourbi confirme donc avec éclat la capacité de la revue à fournir tous les 6 mois une impressionnante collection de textes superbement écrits, jouant eux-mêmes avec les reflets intimes de la poésie et de la littérature, avec la curiosité et l'éclectisme, avec la beauté et l'humour sans ironie. On ne saurait mieux dire, tiens, on peut faire un rêve, que tous les libraires, comme celui-ci, déclarent leur flamme à une revue.
C'est une supplique que vous faites donc aux libraires?
Petite supplique aux libraires, oui, qu'ils permettent à leurs visiteurs de rencontrer enfin ces 2 revues, les voir. Assurément, c'est les adopter. Et pour que la parure soit plus séduisante encore, un dernier conseil. Sur la table de présentation, les entourer du dernier numéro de Mirabilia, gorgé de talent et d'art, numéro 9 consacré à l'Allemagne, et du dernier numéro, le 8e, des très discrètes chroniques du Sahela, qui propose un périple dans les littératures européennes, pour l'essentiel, du côté de celles où il y a beaucoup à découvrir. Slovénie, Lettonie, Lituanie, Pays de Galles. Ce petit coin de table miroitant et riche d'échappées serait de la gueule, non?
En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup André Chabin. Puis je revois nos auditeurs sur votre publication. Toutes les informations sont disponibles sur entrevue au pluriel.org.
Dernière étape de notre série consacrée à George Sand dans la compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes plongés aujourd'hui dans sa correspondance grâce à Thierry Baudin qui en a fait une sélection pour le livre « Lettres de ma vie » paru chez Folio Gallimard. « Lettres d'une vie », pardonnez-moi Thierry Baudin. Et parmi les correspondants de Sand, on trouve le grand Victor Hugo.
J'ai perdu en un an trois êtres chers qui remplissaient ma vie d'espérance et de force. L'espérance... C'était un petit enfant qui me représentait l'avenir. La force, c'était deux amitiés sœurs l'une de l'autre qui, en se dévouant à moi, ravivaient en moi la croyance au dévouement utile. Il me reste beaucoup pourtant. Des enfants adorés, des amis parfaits. Mais quand la mort vient frapper autour de nous ce qui devait si naturellement et si légitimement nous survivre, on se sent pris d'effroi et comme dénué de tout bonheur. Parce qu'on tremble pour ce qui est resté debout. Parce que le néant de la vie vous apparaît terrible. Parce qu'on en vient à se dire, pourquoi aimer s'il faut se quitter tout à l'heure?
Une lettre donc de George Sand à Victor Hugo. Thierry Baudin, je vois que vous farfouillez dans votre ouvrage. Pour quelle raison ?
C'est effectivement la correspondance avec Hugo est relativement courte. Hein. C'est pas une grosse correspondance, mais il y a de très très belles lettres là-dedans. Et justement, la correspondance croisée a été publiée il y a quelques années par Daniel Bayaoui. C'est un petit volume, mais qui est très attachant. Alors évidemment, c'est tout petit à côté de l'énorme échange. Et magistral échange avec Flaubert, où les deux auteurs sont vraiment à la même hauteur.
Oui. Excusez-moi. On va en parler, puis on en écoutera une aussi. Mais sur quand même cette relation avec Victor Hugo, qui est intéressante parce que précisément ils ne se sont pas rencontrés. C'est une relation qui est uniquement épistolaire.
Ils ont dû se croiser à Paris avant l'exil de Hugo, et puis se revoir peut-être, se croiser également. Après 70, mais bien qu'elle soit peu venue à Paris. Mais effectivement, il y a la grande période d'exil où George Sand elle-même est en quelque sorte, pour une grande partie de son temps, en exil à Nohant, exil volontaire. De même, dans son œuvre, elle a choisi une certaine forme d'exil, c'est-à-dire qu'autant avant la Révolution de 48, elle avait écrit des romans relativement engagés, comme par exemple Horace ou Le Meunier d'Angibault ou Le Compagnon du Tour de France, qui étaient vraiment des romans avec une forte teneur politique. Autant à l'avènement du Second Empire, elle décide de changer totalement, de se replonger dans un monde plus psychologique, plus différent, où la politique, les problèmes sociaux n'interviennent pas ou interviennent peu. Donc sauf là, un roman très politique sur l'Italie qui s'appelle La Daniela, qui est un roman terrible, qui d'ailleurs a eu des problèmes avec la censure. Mais c'est vrai que là...
Donc alors, pour vous, il y a un exil en même temps que celui de Victor Hugo, un exil de George Sand qui les rapprocherait, selon vous ?
Je pense pas que ça la rapproche, mais effectivement, elle va garder un contact avec Victor Hugo, qui représente effectivement une sorte de liberté en dehors de la France. Et donc des lettres assez intenses, pas très longues, mais toujours pleines de d'âme et de sympathie.
Hein. Ce qui n'était pas gagné au départ, si l'on peut dire, puisque Hugo disait de George Sand « Non, Madame Sand, dont j'admire le grand talent, ne sait pas écrire. »
Oui.
Et Sand, après la lecture de Ruy Blas, se demandait si Hugo n'était pas fini.
Oui, et même, je me demande si c'est pas à certains moments des Misérables où elle a dans l'agenda des paroles pas très, pas très enthousiaste. Bon, mais elle, quand même, elle révère la figure de Victor Hugo, et donc il y a cet échange. Et puis surtout, ils vivent deux l'expérience de la perte. Hugo, la perte d'un enfant, elle, la perte de petits enfants qui vont la marquer profondément, parce que elle a su cultiver très très fort l'art d'être grand-mère.
Parce que c'est sur l'émotion que tiennent les lettres. Voilà, c'est de sur George l'émotion. Sand.
Oui, c'est sur l'émotion. Mais là, ça a un côté peut-être un petit peu plus institutionnel, disons, avec Hugo. C'est pas la camaraderie, c'est effectivement deux grandes éminences du littéraire du siècle qui se saluent affectueusement, mais on peut pas dire qu'il y ait vraiment un flux continuel entre eux.
Alors, vous évoquiez Flaubert, c'est peut-être le moment d'entendre justement une lettre à Flaubert de la part de George Sand.
Quand je vois le mal que mon vieux se donne pour faire un roman, ça me décourage de ma facilité et je me dis que je fais de la littérature savatée. Et toi, mon bénédictin, tu es tout seul dans ta ravissante chartreuse, travaillant et ne sortant jamais. Vous êtes un être à part, très mystérieux, doux comme un mouton avec tout ça. J'ai eu de grandes envies de vous questionner, mais un trop grand respect de vous m'en a empêché. Vous m'étonnez toujours avec votre travail pénible. Est-ce une coquetterie? Ça paraît si peu. Quant au style, j'en fais meilleur marché que vous. Le vent joue de ma vieille harpe comme il lui plaît d'en jouer. Il a ses hauts et ses bas, ses grosses notes et ses défaillances. Au fond, ça m'est égal pourvu que l'émotion vienne.
Alors ça, c'est l'admirable dialogue entre deux immenses écrivains, l'un beaucoup plus jeune que l'autre, Flaubert, presque en âge d'être son fils.
Oui. Elle avait vraiment... Mais ce bonhomme, ce gros bonhomme bourru, ils étaient très différents l'un de l'autre, aussi bien dans leur croyance, que dans leur aspect et dans leur façon de vivre. Mais il y a vraiment eu quelque chose, une grande émotion. George Sand a beaucoup admiré Flaubert. Elle a imposé pratiquement l'éducation sentimentale à l'éditeur Michel Lévy. Elle a soutenu Flaubert et vraiment, il y a eu un échange extraordinaire parce qu'il et des longues lettres, des lettres merveilleuses d'un côté comme de l'autre. Hein.
Et très nombreuses.
Oui, c'est un gros volume qui a été publié chez Flammarion par un monsieur qui s'appelait Edwards, qui était formidable, et qui s'appelait Jacobs, pardon, et qui a rassemblé cette correspondance. Et là, vraiment, on est à un niveau merveilleux d'échange, de hauteur de vue, même s'ils ne sont pas d'accord, et même si parfois il y a des lettres furieuses d'engueulade, mais ils s'aimaient vraiment, ils se comprenaient vraiment. Il se traitait en troubadour, il se qualifiait de troubadour. Et Flaubert, qui n'était pas un grand émotif, a écrit à la mort de George Sand, « Il fallait la connaître comme je l'ai connue, pour savoir tout ce qu'il y avait de féminin dans ce grand homme, l'immensité de tendresse qui se trouvait dans ce génie. » Elle restera une des illustrations de la France et une gloire unique. C'est un dialogue qui dure 10 ans, mais qui est très abondant, aussi bien en nombre qu'en longueur de lettres et en qualité.
Et de quoi parle-t-il ? Est-ce qu'il ne parle que de littérature ? Est-ce qu'il parle de leur vie ?
Non, il parle de leur vie. George Sand reproche à Flaubert de s'enfermer. Elle lui reproche cette façon qu'il a de fignoler, de pousser jusqu'au bout. Et elle a peur que, justement, ça devienne quelque chose d'impersonnel. Elle voudrait qu'il produise davantage.
D'émotion, justement.
Oui.
Parce que pour elle, il est un peu trop intellectuel, dans sa littérature comme dans la vie, peut-être.
Voilà, c'est cela. Et elle voudrait vraiment qu'il s'ouvre sur le monde.
Et qu'il devienne davantage sandien.
Non, 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 elle ne cherchait pas à le convertir, mais ils se sont vraiment bien entendus. Et il y a des soirées à Nohant, Georges Sand est allé faire deux séjours, je crois, à Croisset, et Flaubert est venu de temps en temps aussi à Nohant, et c'était des fêtes extraordinaires, ils s'amusaient, ils se déguisaient, Flaubert se déguisait, il jouait avec les enfants, les petites filles, il adorait, et c'était vraiment une grande complicité, c'était deux complices.
Alors, comme avec Hugo, pourtant, ça partait plutôt mal, puisque Flaubert a méprisé très longtemps les écrits de Georges Sand. Il a cette phrase étonnante. « Dans Georges Sand, on sent les fleurs blanches, cela suinte, et oui. L'idée coule entre les mots comme entre des cuisses sans muscles. »
Oui. Mais bon, je crois qu'il y a eu des propos parfois un peu durs de Flaubert qui ne goûtaient pas forcément tous les romans de Georges Sand. Il y en a qui sont un peu moins réussis que d'autres, ça c'est certain. Mais à partir d'une certaine époque, je crois que même si un roman de Georges Sand ne lui plaisait pas énormément, l'important c'était ce que Georges Sand représentait. Cette création permanente, cette facilité d'écriture qu'il admirait parce qu'il en était incapable. Et finalement, il la révérait comme un grand génie, quand même.
Mais à la fin, c'est quand même lui qui incarne peut-être davantage la modernité.
Oui, c'est certain que le roman de Flaubert va avoir une plus grande postérité que certains romans de Georges Sand, ça c'est certain. Et puis il va inventer une nouvelle voie pour le roman, alors que Georges Sand ne va pas vraiment innover dans ça de ce côté-là. Mais ça reste quand même une œuvre extrêmement riche, avec tellement de facettes qu'on a du mal, même des gens qui connaissent bien et qui la lisent beaucoup, ont du mal à la cerner complètement. Et là-dedans, dans cette centaine de livres, il y a quand même des chefs-d'œuvre.
Vous écoutez la Compagnie des auteurs sur France Culture. Ce qui différencie Thierry Baudin, Flaubert de Georges Sand, c'est peut-être aussi que Sand avait une sorte de détachement désinvolte à l'égard de sa propre œuvre et que dans ses lettres, elle considère presque que c'est du barbouillage, qu'elle fait preuve d'une déplorable facilité. C'est étonnant quand même cette manière de parler de son propre travail dans sa correspondance.
C'était aussi un petit peu un jeu. Hein. Mais effectivement, elle le dit d'ailleurs une ou deux fois, il y a quelques lettres où elle le dit, qu'elle a pondu son roman, c'est comme un œuf, et puis après passe à autre chose, elle est en train de réfléchir au prochain roman. Alors ça, évidemment, c'était à l'opposé de la conception de Flaubert, qui voulait une œuvre d'art absolument impeccable, complètement affinée. Il y avait aussi un problème de fond aussi, c'est que Georges Sand s'investissait dans son œuvre, hein, et tandis que Flaubert, lui, était complètement détaché. Il regardait sa création,
qui était
impeccable, il ne vivait pas derrière des
à leur mode de vie. L'une investit dans la politique, l'autre en détachement.
Oui, puis
total.
Aussi, c'est vrai que bon, ils vivaient tous les deux une grande partie du temps retirés dans leur maison, mais Flaubert était tout seul, renfermé à Croisset. Dans sa maison. George Sand était à Nohant, mais il y avait une foule de personnes autour d'elle qui jouaient. Et, mais quand même, c'est, elle dit dans une lettre, elle dit à Flaubert qu'il est un homme roman. Hein. Et tandis qu'elle, elle veut, il y a un échange extraordinaire entre les deux, elle veut se mettre, elle, dans la peau de ces bonhommes, de ces bons hommes. Et ne rien mettre d'elle-même dans ses romans, ça lui semble absolument inimaginable, impossible. À quoi bon écrire si on ne peut pas mettre ce qu'on pense, ce qu'on vit, son âme, ses sentiments dans son œuvre. Et donc là, c'est vraiment le grand point d'achoppement et de différence entre les deux.
Et ça recoupe donc la politique dont nous parlions mardi dernier. Il y a évidemment des lettres politiques, il y a des lettres à Barbès, des lettres à Louis Blanc, et il y a même des lettres à Napoléon III.
Oui, alors ça a été aussi un c'est-à-dire que pour elle... c'était une sentimentale de toute façon au fond, et elle ne voulait pas le. Alors, il y a eu avec les gens de 48 ou les révolutionnaires, les républicains, deux grands problèmes. C'est-à-dire qu'elle pensait qu'on ne peut pas aller plus vite que le peuple et que la révolution doit se faire au rythme auquel le peuple peut l'adopter. Et que ça sert à rien de brusquer les choses, de forcer les gens, on n'arrivera à rien, et la démocratie ne pourra pas s'installer. Ça, c'est déjà un point d'achoppement énorme. La seconde chose, c'est que quand le Second Empire vient et qu'il y a des répressions, pour elle, elle se dit, je peux pas laisser ces gens-là, alors que les républicains, il n'est pas question de frayer avec l'Empire, mais elle va passer son temps et user une partie de son énergie, le nombre de lettres est incroyable, et de visites qu'elle rend, à aller taper chez tous les ministres, dans les administrations, auprès du prince Napoléon, qui est le cousin de Napoléon III, auprès de Napoléon III, auprès de l'impératrice Eugénie. Enfin, elle sonne à toutes les sonnettes qu'elle peut tirer pour sauver ou alléger le sort de ses amis proscrits ou emprisonnés.
Voilà, et quand elle écrit donc à Napoléon III, elle lui exhorte d'avoir du cœur, oui. Car seul le cœur fait des miracles. Et puis elle commence en disant, je ne suis pas Madame de Staël quand même, pour rappeler que bon, il n'a rien à craindre quand même à la fin. Les dernières lettres, Thierry Baudin, comment sont-elles très différente des premières dans le recueil, puisque vous avez voulu faire toute une biographie chronologique. Est-ce qu'on la sent évoluer du début à la fin?
Pas vraiment, disons qu'il va peut-être y avoir un peu plus de résignation dans les toutes dernières années. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a eu les 15 ans de vie quasi maritale avec Manceau. Manceau meurt en 65. George Sand va avoir encore une dizaine d'années à vivre. Et là, il y a effectivement un côté plus philosophe, peut-être, plus détaché, croyant à la vie future. Et puis, elle est décidée, malgré tout, à vivre.
Et sa toute dernière lettre est adressée à son neveu Oscar Casamajou. Elle écrit « Ne t'inquiète pas, j'en ai vu d'autres et puis j'ai fait mon temps et ne m'attriste d'aucune éventualité. Je crois que tout est bien, vivre et mourir, c'est mourir et vivre de mieux en mieux. Ta tante qui vous aime », c'est donc les derniers mots de vos lettres d'une vie. Thierry Baudin, merci beaucoup d'être venu nous voir.
Bon, merci.
Et tout de suite la poésie. La poésie comme chaque jour avec Jacques Bonafé. Cette semaine, il nous propose d'habiter poétiquement le monde. Citation d'Hölderlin, qui n'est pas une proposition au SDF qui sommeille en chacun de nous, mais bien, nous dit Jacques Bonafé, une visée exaltante.
Bonjour, cette semaine nous feuilletons habiter poétiquement le monde, une anthologie manifeste. On est très embêté, c'est paru chez Poésis, éditeur, nouvel éditeur, parce que on se balade là-dedans, on feuillette, on prend, au hasard, on tombe sur une page merveilleuse de Guy Vic, une autre absolument merveilleuse, Michel de Guy, etc. Et on n'arrivera pas à en rendre compte que des petits extraits. Lautréamont, il n'existe pas deux genres de poésie, il n'en est qu'une. La poésie n'est pas la tempête, pas plus que le cyclone. C'est un fleuve majestueux et fertile. La poésie personnelle a fait son temps de jonglerie relative et de contorsion contingente. Tiré de Mallarmé, lettre à Léodore Fer, la poésie est l'expression par le langage humain ramené à son rythme essentiel du sens mystérieux des aspects de réexistence. Elle doue ainsi d'authenticité notre séjour et constitue la seule tâche spirituelle. De Mallarmé, lettre adressée à Léodore Fer en 1884, la poésie est l'expression par le langage humain ramenée à son rythme essentiel du sens mystérieux des aspects de réexistence. Elle doue ainsi d'authenticité notre séjour et constitue la seule tâche spirituelle. Paul Reverdy, le propre du poète est de penser et de se penser en images. Cette émotion appelée poésie, écrit en 1950. Il y a au monde, on l'oublie trop, des millions d'hommes qui ne sont nullement sensibles aux beautés de la nature, et particulièrement ceux qui vivent le plus près d'elle et la connaissent le mieux dans la réalité, parce qu'ils sont aux prises avec elle et n'ont pas reçu de l'art les leçons qui auraient pu éveiller en eux le sens qui leur permettrait de discerner ou de reconnaître ces beautés. Pour eux, la beauté naturelle n'est pas encore née, ne naîtra sans doute jamais. Passons donc au poète qui est précisément celui chez qui la beauté est née et existe au point de devenir son unique souci. On a souvent dit et répété que la poésie, comme la beauté, était en tout et qu'il suffisait de savoir l'y trouver. Eh bien non, ce n'est pas du tout mon avis. Tout au plus accorderais-je que la poésie n'étant au contraire nulle part, il s'agit précisément de la mettre là où elle aura le plus de chances de pouvoir subsister. Fernando Pessoa disait qu'en chacun de nous, il y a deux êtres. Le premier, le vrai, c'est celui de nos songes, de nos rêves, qui naît dans l'enfance, qui se poursuit toute la vie. Et le second être, le faux, est celui des apparences, de nos discours, de nos actes, de nos gestes. Je ne dirais pas que l'un est vrai et que l'autre est faux, mais effectivement, à ces deux états correspondent deux êtres en nous. Donc, poésie-prose, tel est le tissu de notre vie. Hölderlin disait poétiquement « l'homme habite la terre ». Je crois qu'il faut dire que l'homme habite poétiquement et prosaïquement à la fois.
Laissez-vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
Et c'est donc poétiquement que s'achève ce dernier numéro d'une compagnie des auteurs consacrée à George Sand. Merci à vous Thierry Baudin, je renvoie les auditeurs à votre édition des Lettres d'une vie de Sand, c'est dans la collection Folio Classique. Demain, comme chaque vendredi, c'est Mathieu Conquet qui officiera à cette même heure, il recevra Miossec et nous on se retrouve lundi avec une série consacrée à la Beat Generation. Je recevrai le biographe de Kerouac, Yves Buin. À la réalisation cette semaine, c'était David Jacubovies, à la console Myriam Guillot. Un grand merci à Anne-Vanessa Prévost, Pascaline Bonnet, Didier Pinault et Sophie Dombarès. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec La Marche des Sciences par Aurélie Legnaud. Très bon après-midi à toutes et à tous à l'écoute de France Culture.